Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Ils disent que toutes les religions sont bonnes. C'est presque impossible que vous ne l'ayez jamais entendu, celle-là. Il y a un Dieu qui s'appelle Bouddha, qui s'appelle Dieu, ou peu importe le nom qu'on lui donne. L'important, c'est d'avoir la foi. Certaines gens vont dire ça. C'est une vision typique canadienne, principalement. Même nos voisins du Sud, puis les gens de l'Europe voient en nous quelque chose à propos du respect qu'on a envers les croyances d'autrui. Les Canadiens, ce sont des gens respectueux. C'est même plus important d'avoir du respect pour les idées des autres que d'avoir raison ou d'avoir une conviction. Fait que, respecter ça, fait que ça paraît bien en surface, mais j'aimerais ça discuter avec vous, puis peut-être sur l'heure du dîner, si vous avez une opinion différente ou si vous avez des questions sur ce que j'ai apporté, on peut continuer le dialogue. Nous, ici au Canada, dans le fond, comment on veut que tout le monde se sente assis à la table et que tout le monde se sente respecté assis à la table, c'est que toutes les croyances sont sur le même pied d'égalité. Et ça, ça se traduit par une expression qu'on appelle le pluralisme religieux. J'ai pas allumé ma manette, je vais l'allumer. Le pluralisme religieux, qu'est-ce que ça dit? Les religions n'ont pas la vérité, absolue en tout cas, prochain clic. Elles sont vraies dans la mesure où elles racontent chacun qu'elles ont eu une rencontre avec Dieu, soit sur la base d'un enseignement, soit sur la base d'une expérience mystique, soit sur le fait qu'ils ont reçu des commandements ou des directives de la part de Dieu ou de la vérité. Donc, on pourrait définir le pluralisme comme une vision selon laquelle chaque chemin religieux, en tout cas les principaux, et les chemins religieux, on entend par là les chemins moraux, mènent à Dieu, à la réalité ultime ou au salut. Grosso modo, ce que ça veut dire le pluralisme religieux, c'est que chaque religion enseigne à peu près la même chose, puis chaque chemin mène au même sommet de la montagne. Donc, on est en train de monter, mais on ne monte pas sur le même versant de la montagne, mais en haut, c'est toute la même affaire. C'est un petit peu ça, le pluralisme religieux. Et donc, les gens qui ont des croyances différentes se sentent acceptés, tolérés. Personne autour de la table serait assez arrogant pour dire que lui, il a la vérité, avec un grand V. Et le mot-clé, c'est la tolérance. Puis, je veux juste dire à notre équipe audiovisuelle, merci beaucoup d'aller de l'avant, annoncer déjà le prochain sujet, est-ce que les chrétiens sont intolérants? Ça ne sera pas le mois prochain, c'est la semaine prochaine. Le mois prochain, j'étais supposé te donner un thème, puis ça, c'est mon erreur, là, c'est ma façon de communiquer rapidement, là, mais mon équipe audiovisuelle a déjà fait un billet avec ça, puis tout ça, fait que je veux vous remercier beaucoup. Merci, Juliane, pour ça. Mais le message, est-ce que les chrétiens sont intolérants? Ça va être la semaine prochaine. OK? Donc, le mois prochain, on va vous communiquer le thème bientôt pour ça. OK? Et donc, le mot-clé, c'est la tolérance envers l'autre, la tolérance envers ce que l'autre pense. Puis la question, c'est est-ce que c'est possible qu'on puisse tous être assis à la même table des croyances, des valeurs, puis de la morale, puis de tout croire que tout ça, c'est bon, que tout ça, c'est correct. Est-ce que ça se vit? Dans la première partie de mon message, dans les premiers 10-15 minutes de mon message, je vais poser la question, je vais essayer d'y répondre. Est-ce que ça se vit, ça, que toutes les croyances sont bonnes, que toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on ait la foi, l'amour, puis qu'on pense à notre prochain? Okay? Dans la deuxième partie de mon message, bien, c'est sûr que je vais dire qu'est-ce que la Bible dit ou qu'est-ce que le christianisme dit à propos de cette question-là. On va commencer avec une illustration qui devrait être bien intéressante. Peut-être que vous l'avez déjà entendue. Avez-vous, et n'as-tu par main levée des gens qui ont déjà vu un genre d'illustration semblable, l'enseignement de l'éléphant? N'as-tu qui ont déjà entendu parler de cet enseignement-là? Donc, le pluralisme religieux, on l'identifie comme l'histoire de quelques hommes qui étaient aveugles et qui ont touché à une partie de l'éléphant Et à la partie qu'il touchait, un a dit que ça ressemblait, la corne, à une pointe de flèche. Quelqu'un d'autre a dit que ça ressemblait à un serpent. Hein, il avait touché à la trompe, donc un serpent. Un autre, plus à, tu sais, les grosses choses qu'on prend pour aérer, là, un aérateur ou un genre de un panneau là, pour aérer. Là. Donc, je vais l'appeler ventilateur. Un autre a touché plus sur le côté de l'éléphant, puis lui a touché un mur de... Il disait, c'est un mur, ça, c'est un gros mur, un mur de terre, là, tu sais, avec la terre, de la brique. L'autre, il dit, j'ai touché à la patte, mais lui, il dit, j'ai touché à un arbre. Puis finalement, un autre dit, non, c'était de la corde. Il avait touché à la queue. Donc, cet éléphant-là est utilisé souvent pour définir le pluralisme religieux, c'est-à-dire que chacun des aveugles a tenté de définir pour lui-même qu'est-ce qu'était la vérité et leurs conclusions ne sont pas pareilles, elles ne sont pas exactes, mais personne ne peut remettre en question qu'ils ont tous eu un contact avec l'éléphant ou la chose. L'image est utilisée dans le pluralisme religieux pour dire que les religions sont tous en quête de la vérité. Ils disent avoir vécu une expérience avec le divin et ils en concluent des versions différentes selon leurs expériences ou encore leurs enseignements. Donc, on va regarder cette parabole-là ensemble, puis en se servant de l'exemple de l'éléphant, on va être capable d'évaluer la parabole de l'éléphant, d'évaluer le pluralisme religieux. Donc, premièrement, c'est une illustration et ce n'est pas un argument. Je vais essayer de vous le démontrer avec une autre image. Un argument, normalement, quand on dit que c'est un argument, c'est qu'il y a une conclusion qui a été appuyée sur des évidences ou sur une réflexion de logique. Dans l'exemple de l'éléphant, il n'y a pas rien qui nous dit que toutes les religions sont aveuglément en train de toucher à la vérité. Okay? Il n'y a aucun argument qui nous est donné pour qu'on accepte que toutes les religions sont vraies. Au début, ça paraît beau et ça paraît respectueux de dire que toutes les croyances équivalent, mais peut-être que c'est faux. Peut-être que ce n'est pas vrai, ça. C'est une belle histoire, mais c'est une histoire qui peut être fausse. Dans son livre, Kenneth Richard Sample, dans son livre « Without a doubt », sans aucun doute, il dit « Les analogies sont puissantes. Elles peuvent illustrer des idées fausses et trompeuses. » On peut faire une belle image comme l'image de l'éléphant puis dire « Regarde, c'est comme ça que c'est la vie. » Mais ça peut nous envoyer complètement sur une idée qui est totalement fausse. Par exemple, si vous croyez que toutes les religions s'équivalent, puis qu'il y a un chrétien qui vous fait l'image du labyrinthe, et puis il vous dit, le labyrinthe, c'est que toutes les religions sont un des chemins du labyrinthe, mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Dieu est au-dessus du labyrinthe, devient un homme et vient nous aider pour finalement nous montrer ce chemin-là. Hey, c'est une image puissante. Mais est-ce que si vous croyez que toutes les religions s'équivalent, vous allez accepter ça parce que dans cette version-là, toutes les religions ne s'équivalent pas. Il y a un seul chemin qui mène à la destination. Allez-vous accepter l'image simplement comme ça puis dire, non, la chose que vous allez demander, c'est, donne-moi des évidences qu'il y a un seul chemin. Eh bien, c'est exactement ça. Une illustration n'est pas appuyée sur la logique, elle est appuyée sur à peu près rien, puis à te dit une vérité, mais sans évidence, sans trop de réflexion. Alors, une personne qui verrait cet énoncé-là pourrait être en droit de se dire, bien là, les chrétiens se prennent pour qui de dire qu'il y a un seul chemin, qu'ils produisent des évidences qu'il y a un seul chemin. Eh bien, on peut dire aussi la même affaire de ceux qui disent qu'il y a plusieurs chemins. Il faut leur demander aussi, quelles sont les évidences que toutes les vérités s'équivalent ou qu'il y a plusieurs chemins pour aller à Dieu? Je pense qu'on a saisi l'idée de l'image, que ce n'est pas un argument, que c'est juste une illustration. Deuxièmement, c'est une parabole qui est manifestement fausse. Si c'est vrai que dans les grandes religions, il y a quelques similitudes, quelques ressemblances, c'est encore plus vrai qu'il y a, peut-être pas de nombreuses, mais de très grandes différences. Par exemple, pas beaucoup de religions ont la même version de comment le monde a été créé, comment le mal est rentré dans le monde, la solution pour le mal dans le monde, le sens de la vie après la mort, ce sont cinq grandes questions que, quand vous regardez toutes les religions comparées, vous apercevez que ce n'est pas vrai pendant toutes. Si une est vraie, l'autre ne peut pas être vraie en même temps. Donc, ce qui compte, ce n'est pas les ressemblances, c'est les différences. Donc, à gauche, vous avez une pilule blanche, ex lax, puis à droite, vous avez des aspirines. Les deux, c'est deux pilules blanches, à peu près de la même grosseur, mais ne font pas du tout la même affaire. Parce que ce qui compte, c'est la différence et non pas les ressemblances. Donc, si vous enlevez les distinctions du bouddhisme, du mahométisme, du christianisme, vous enlevez toutes les choses divergentes pour faire quelque chose qui est commun, vous détruisez aussi ces religions-là parce que c'est leur différence qui les distingue et non pas ce qu'ils ont en commun. Ce n'est pas juste l'amour du prochain, l'espoir puis le sens d'un sens général à la vie qui réunit les religions, chacun dans leurs croyances, mais bien ce qui les distingue. Et pour ça, je vais vous lire un homme qui est américain, mais qui, lui, il sillonne les universités dans le monde entier. Et quand il vient au Canada, il a dit qu'il reconnaît ici au Canada qu'on a vraiment, on est vraiment caractérisé par le pluralisme religieux, c'est-à-dire ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Et il va dire ceci. À la question, quand les gens disent « toutes les religions sont vraies », il dit « cette vision que j'entends souvent chez les étudiants au bac » est enraciné dans l'ignorance de ce que les grandes religions enseignent. Quiconque a étudié les grandes religions comparées sait que la vision du monde prononcée par ces religions sont souvent diamétralement opposées l'une à l'autre. Prenez l'exemple de l'islam et du bouddhisme, par exemple. Et il continue. Leur vision du monde n'a presque rien en commun. L'islam croit en un Dieu omnipotent, omniscient et saint qui a créé le monde. Les mots « omnipotent » et « omniscient » veut dire « qui peut tout, qui sait tout ». Ensuite, il dit « il croit que les hommes sont pécheurs et ont besoin de pardon. Il croit qu'il y a un ciel et un enfer éternel et finalement que pour parvenir au salut, on doit le mériter en ayant la foi et en faisant des bonnes œuvres. » Le bouddhisme, quant à lui, il dit, le bouddhisme classique, il croit que la réalité ultime est impersonnelle. Donc, il n'y a pas un Dieu avec une intention ou avec des sentiments ou avec une réflexion. Il n'y a pas un Dieu logique, c'est impersonnel. OK, la divinité et le monde n'est pas créé. Déjà, là, regardez là. On a ici, d'un côté, Dieu a créé le monde. De l'autre côté, Dieu n'a pas créé le monde puis Dieu n'est pas une entité en soi individuelle. Lui, le bouddhisme va dire que l'individualité ne perdurera pas et le but ultime de la vie n'est pas que vous viviez immortel, mais que vous soyez annihilé en tant que personne. Donc, le bouddhisme, contrairement à l'islam, l'islam croit à deux destinées, une avec le ciel, une avec l'enfer. Tandis que si on s'en va dans le bouddhisme, le but, c'est la non-souffrance. Parce que Bouddha, quand il a fait sa théologie, il a observé le monde souffrir, puis il a réalisé que l'état ultime, c'était de ne plus exister ou de ne plus ressentir. Il a regardé, il a été élevé dans la ouate, son père l'a empêché de sortir jusqu'à l'âge de 13 ans, je pense, puis il n'a jamais vu la souffrance. Puis quand il a sorti, il a pas retourné à la maison. Puis il a commencé à lui-même s'affliger de la souffrance dans le monde, puis ses réflexions étaient beaucoup autour de la souffrance dans le monde. Puis il a dit, dans le fond, que le summum, c'était d'arriver à un endroit où on aurait, à force de réincarnation, arriver à un endroit de non-existence où nous serions fondus dans le Bouddha. Que nous sommes tous participants les uns et les autres du Bouddha, hein, et que donc c'est nous la divinité d'une certaine manière. Fait que tu arrives avec quelqu'un qui croit à l'islam, qui dit non, l'individu demeure un individu jusqu'à la fin, puis ensuite il s'en va soit en jugement, soit dans la félicité éternelle. Et là, on arrive avec une majeure contradiction de les asseoir à la même table puis de dire que les deux ils ont raison. Alors on continue. Pour le bouddhisme, l'idée du péché et d'être sauvé, ça n'a pas de rôle parce que, dans le fond, tu n'as pas besoin de te sauver toi-même nécessairement. À cause de ça, on est obligé de dire que le pluralisme est faux parce qu'il ne respecte pas la loi de non-contradiction. Est-ce que un A pourrait être non-A à la fois? Est-ce que blanc pourrait aussi ne pas être non-blanc? Est-ce que vous pourriez entrer et ne pas entrer en même temps? C'est ce que cette affiche vous propose. Cette affiche vous dit de ne pas rentrer, de ne pas avancer, puis l'autre dit « entrer seulement ». Est-ce que vous pouvez faire les deux à la fois? Est-ce qu'on peut être à la fois croire que la vérité telle que l'islam le perçoit est bonne et la vérité telle que le bouddhisme le conçoit est bonne? On ne peut pas. Donc, il y a un non-respect de la loi de non-contradiction et donc dans la logique, l'argument s'effondre simplement comme ça. Ensuite, La parabole sous-entend que toutes les religions expérimentent Dieu. Parce que dans le fond, vous voyez l'éléphant, puis chacun touche un petit peu. Hein? Et donc, celui qui a dessiné cette image-là sous-entendait que toutes les religions expérimentent une petite partie de la vérité. Mais, je vous pose la question, est-ce que le pluralisme religieux n'est pas une religion en soi ou une façon de voir la vérité? Et si c'est une des religions, es-tu aveugle? Elle prétend voir parce qu'elle dit qu'elle voit toutes les autres se coller soit à la queue, soit au pied, soit à l'oreille de l'éléphant. Donc, le pluralisme religieux est une croyance en soi et elle ne peut pas elle-même produire la vérité qu'elle voit tout l'éléphant. Elle ne peut pas. Donc, elle-même, comment elle peut prétendre, comment la croyance que toutes les religions expérimentent Dieu peut être en soi une vérité? Est-ce que vous êtes avec moi? En disant que toutes les religions expérimentent la vérité, il faut que la personne elle ait plus de bandeau sur les yeux, qu'elle ne soit pas partie des aveugles, puis qu'elle dise « Moi, je le vois, l'éléphant, puis moi, je vais vous dire à toutes vous autres qui ne voyez pas que vous voyez juste une partie de l'éléphant, mais moi, je le vois, l'éléphant. » C'est ridicule, un petit peu comme... mais c'est ridicule, en fait. Donc, ça produit pas une évidence que c'est vrai. Donc, la question reste toujours en suspens. Est-ce que toutes les religions ont vraiment une partie de la vérité? On ne le sait pas. C'est tout ce qu'on peut dire. On ne le sait pas. Mais on ne peut pas affirmer que c'est vrai, que toutes les croyances sont vraies et qu'ils expérimentent tous la vérité. Je viens d'en parler, la vision du monde pluraliste ne fait pas partie des aveugles. Et ça, c'est un problème en soi, juste de montrer qu'il y a quelqu'un à quelque part qui, lui, a vu l'éléphant puis qui a vu que tout ça, là, c'était ça le problème. Là. Lui, il est comme celui qui est au-dessus de tous ceux qui sont aveugles. Et ça ne fonctionne pas, donc. Ce n'est pas une vision satisfaisante. OK. Parfait, ça va assez vite. L'autre est vraiment intéressant ici. C'est un énoncé qui s'autodétruit par lui-même. C'est un peu comme, je ne sais pas c'était quoi l'émission, ce message s'autodétruira dans quelques secondes. Mais cet énoncé-là, toutes les religions sont bonnes, se détruit par lui-même. Pourquoi? Parce qu'écoutez bien, si toutes les religions sont vraies, alors le christianisme est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord? On a notre part dans le gâteau. On est dedans ceux qui ont la vérité. Et si le christianisme est vrai, bien, les visions contraires au christianisme sont fausses, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être les deux à la fois vrais. Alors, toutes les religions ne sont pas vraies. Conclusion, si toutes les religions sont vraies, alors toutes ne sont pas vraies. Alors, quand on arrive avec une logique comme ça, on n'a rien prouvé, à part de sortir de la discussion qu'on ne tentait pas d'avoir. Tu sais, quand on dit toutes les religions sont vraies, c'est parce que ça ne nous en force pas à en choisir une. Ça ne force pas, s'il y a une vérité, à la chercher, cette vérité-là. Donc, c'est une façon de s'en sortir. Mon prof de philosophie disait cette semaine, quand les gens disent « Ah, tout est relatif », elle dit ça, dans le fond, c'est souvent pour faire fermer la discussion puis plus parler du sujet. La personne, dans le fond, ne veut pas débattre des idées. Et j'ai trouvé ça intéressant et honnête de la part de mon professeur de philosophie de dire ça. La parabole, ou le pluralisme religieux, c'est radicalement sceptique. Pourquoi je dis radicalement sceptique? Sceptique, ça veut dire, ou agnostique, ça veut dire la vérité ne peut pas se connaître. Hein? Donc, l'illustration montre qu'une personne ne peut pas arriver à une vision satisfaisante de la vérité ou de l'éléphant. Ils ont juste vraiment un arbre, de la corde, une pointe de flèche. Ils n'arrivent pas à une vision satisfaisante de la vérité. Alors, comment une personne a pu arriver à la connaissance que Dieu ne peut pas se connaître? Qui, dans le monde, est capable de dire que Dieu ne se connaît pas, à moins que cette personne connaisse tout ce qui ne peut pas se connaître? Ah, tu me mélanges, Sébastien. Qui, dans le monde, peut dire que quelque chose ne peut pas se connaître, à moins que cette personne connaisse tout ce qui ne peut pas se connaître? Je vous laisse avec la question. Donc, personne ne peut dire que la vérité ne peut pas se connaître. C'est dur à prouver. Il faudrait que tu connaisses tout ce qui ne peut pas se connaître pour pouvoir dire que la vérité ne se connaît pas. Donc, c'est très sceptique parce que ça prend une... Ah, c'est ça. Parce que, dans le fond, c'est en train de dire, peu importe la religion que tu pratiques, tu vas sortir avec une corde ou avec une pointe de flèche ou avec un serpent ou avec un tronc d'arbre, mais tu n'arriveras jamais avec une version satisfaisante de la vérité. Donc, c'est très sceptique. Ça nous dit littéralement, la vérité ne peut pas se connaître. Puis, en plus, quand on dit qu'on a un petit peu une conviction de ce que peut être la vérité, la personne va comme tout de suite mettre en doute qui peut connaître la vérité. Un peu comme Pilate qui a dit à Jésus, « Qu'est-ce que la vérité? » quand que Jésus il était en procès devant lui. Et dernièrement, pour cette partie-là de mon message, elle démontre le contraire. L'illustration de l'éléphant semblait nous montrer qu'on avait un petit peu toute notre part dans la vérité, mais en fait, elle nous montre qu'on est tous dans l'erreur, qu'on est tous dans le champ, parce que ce n'est pas vrai que c'est un tronc, ce n'est pas vrai que c'est une pointe de flèche, ce n'est pas vrai que c'est un mur. On est tous dans le champ parce qu'on a cru à des prémices de départ qui sont des arguments basés sur ce qu'on pense être des évidences, des prémices de départ qui sont fausses. Donc, un peu comme quand tu joues au golf, tu as eu une mauvaise angle de départ, puis ta balle est rendue dans les herbes longues ou dans le sable. Donc, puisque l'éléphant n'est pas une lance, ni un serpent, ni un mur, ni une corde, ceux qui pratiquent des religions sont tous dans le champ. C'est un petit peu ça que dit le pluralisme religieux. Okay? Alors, on arrive à la partie dans mon message où, alors, est-ce que la vérité est connaissable? Qu'est-ce que le christianisme a à dire là-dessus? Qu'est-ce que la Bible a à dire là-dessus? Bien, selon le christianisme, la vérité, c'est possible de la connaître parce qu'on croit que Dieu l'a fait connaître. On va lire ensemble, puis si vous voulez suivre dans vos Bibles, ça va être dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Je vais vous laisser le temps de tourner. Sinon, on va l'avoir à l'écran. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croissent ou crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Très beau passage. Un beau passage qui nous montre que la parole était avec Dieu, elle était Dieu, et elle a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et pleine de vérité, le passage nous dit. Dans les religions, il y a trois grandes manières de caractériser une religion. Ils sont enracinés dans une ou les trois de ces choses-là. Épistémologiquement, ça veut dire dans un système de pensée. Existentiellement, dans une expérience avec le divin. Ou troisièmement, pragmatiquement ou pratiquement, c'est-à-dire des choses que tu dois faire. Fais ceci, puis tu vivras. Hein? Donc, les grandes religions du monde ont ces trois, des fois plus qu'un que l'autre. Dans les systèmes épistémologiques, on va te donner des réponses concernant l'origine de la vie, de l'univers, la fin des temps, etc. Tu dois maîtriser quelques idées, accepter un certain système de croyances, puis tu vas obtenir le clé du mystère de la vie. C'est des religions qui vont être enracinées épistémologiquement, c'est-à-dire dans la pensée. Existentiellement, c'est qu'eux autres, ces mouvements-là ou ces religions-là vont te proposer une expérience avec le mythique, quelque chose de mystique qui va te définir. Tu vas avoir eu une expérience, tu ne pourras pas t'en tourner ni à gauche ni à droite, et donc tu vas avoir vécu quelque chose émotionnel d'intense. Et il y a des systèmes pragmatiques, des pragmatiques ou pratiques. c'est des gens qui vont dire, regarde, ce n'est pas ce qui se passe en toi, ce n'est pas les expériences que tu vis, ce n'est pas un enseignement, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses. Fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela. Et donc, tu vas obtenir, si tu fais ces choses-là, la clé de la compréhension du sens de la vie. Okay? Mais la foi chrétienne, ce n'est pas enraciné dans trois de ces choses-là. Et la foi chrétienne est distincte des grandes religions du monde en ce qu'elle ne peut pas être réduite seulement à ces trois affaires-là. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des enseignements pour la pensée? Oui, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, recevez mes instructions. Hein, Jésus a proposé, si tu veux être mon disciple, tu vas suivre mes enseignements. Mais la religion chrétienne est bien plus que suivre les enseignements de Jésus. Okay? Elle est beaucoup plus que ça. Elle ne doit pas être réduite à ça, puis je vais vous le dire pourquoi. Je vais vous partager pourquoi. Dans l'hindouisme, il y a trois mots. Pense bien, sens-toi bien, agis bien. Trois mots, ça c'est la religion de l'hindouisme. Okay? C'est les trois mots-clés, les trois phrases-clés. Mais l'Évangile, c'est beaucoup plus que pense bien, c'est bien plus que sens-toi bien, puis c'est bien plus que agis bien. C'est plus que ça. Jésus est venu nous donner plus que des nouvelles choses à penser, mais ses pensées sont très élevées. Et ce qu'il nous donne, ça vient d'en haut, c'est merveilleux, mais c'est beaucoup plus que ça. Jésus est venu dans le monde, pas juste pour nous donner des nouveaux types de sentiments, bien qu'il n'y ait rien qui change plus le cœur que de rencontrer Jésus. J'avais 17 ans, puis quand j'ai rencontré Jésus, ma vie a émotionnellement complètement changé. J'étais perdu. Puis émotionnellement, c'était à un moment où, je ne sais pas si je serai avec vous autres pour parler aujourd'hui, là. Rencontrer Jésus, moi j'ai pleuré pendant 2 mois comme ça. Je me mettais de même pendant un chant. Je remplissais mes mains de liquide corporel de mes yeux, on va dire. Mais je te dis, là, j'étais plein là, ici. Mes mains débordaient de larmes. Tellement c'était un bon moment pour moi de rencontrer Jésus-Christ ressuscité. Mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'avoir un nouveau. Une expérience avec lui. Là. Jésus n'est pas juste venu nous demander d'être gentil avec notre prochain. Puis les gens, des fois, ils nous voient puis ils voient qu'on porte le fruit d'être un chrétien. Mais c'est pas ça être un chrétien. C'est pas d'être gentil avec son prochain. Bien qu'être un disciple de Jésus-Christ va faire qu'on va être gentil avec notre prochain. Mais c'est vraiment plus que ça. Alors, c'est quoi le christianisme? Bien, c'est que Jésus n'est pas venu juste nous donner des nouvelles pensées à propos de Dieu, des nouvelles expériences avec Dieu ou nous faire faire des choses pour Dieu. Jésus est venu en tant que Dieu. Jésus est venu en tant que Dieu. Et c'est ce qu'on a lu dans ce passage-là. Et Jésus est venu refléter qui Dieu est. Donc, il est la vérité incarnée. Le mot pour parole, c'est logos, et c'était le meilleur, on pourrait dire quasiment que c'est une parole expliquée. Jésus est celui qui est venu expliquer Dieu. Quand c'est écrit « la parole a été faite chair », ben le verset qu'on a lu tantôt, c'est que Dieu n'est pas juste venu nous dire, ne nous a pas envoyé une vérité par un prophète, il est la vérité qui a été faite chair. Donc, c'est plus que juste un enseignement qu'on a reçu. On a reçu quelqu'un en chair et en os, qui était la vérité incarnée. Okay? Et donc, les systèmes qui sont enracinés par la pensée ou par les enseignements, c'est des enseignements qui sont communiqués par des mots, ça révèle des pensées, mais Jean dit, la parole a été faite chair, et donc Jésus est la matérialisation dans son corps de ce que Dieu est lui-même. Et Jésus vient, puis vient faire connaître Dieu lui-même, il est la vérité incarnée. Les systèmes qui sont enracinés dans les expériences, c'est des moments qui vont dire, j'ai vécu un avant, puis j'ai un après. Je veux dire, le gars, il est rentré dans un temple bouddhiste, puis il a vécu une paix extraordinaire. Il peut dire, j'ai un avant, j'ai un après. Ils vivent un moment dans le calendrier, un moment, une illumination, quelque chose qui vient illuminer ta vie. Hein? Et puis l'homme soupire pour avoir une vie pleine. Les gens ne pensent pas souvent à l'éternité, à ce qui s'en vient après, parce qu'ils sont préoccupés à essayer de voir quand même pour avoir plus de vie dans cette vie. Ils veulent tirer au maximum de la vie. Donc, ils veulent tirer au maximum des expériences de la vie. Mais le texte nous dit, en lui était la vie. hein? En elle, qui était la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ce passage-là nous dit que c'est Jésus qui est la vie. Il ne vient pas te donner la vie. Il est la vie. En lui est la vie, et la petite lumière de ta petite chandelle qui brûle, c'est lui qui brûle en toi. L'âme, qui est une âme vivante, est maintenue par Jésus-Christ dans chacun d'entre nous. Et donc, en Jésus-Christ était la vie, et cette vie-là est la lumière, était la lumière des hommes. Donc, la vie de Christ, c'est la vie même de chacun des hommes et des femmes qui sont ici ce matin. Dans Jean 3, 36, ça dit que si tu connais Jésus, tu vas aussi avoir la vie éternelle. Mais que si tu ne le connais pas, tu n'auras pas la vie éternelle. Donc, quand quelqu'un reçoit la vie éternelle, il ne reçoit pas la vie de Jésus, il reçoit Jésus, qui est la vie, et en lui est la lumière des hommes. Donc, quelqu'un qui reçoit Jésus, il ne reçoit pas une expérience de vie, il reçoit celui qui est la vie. Donc, le christianisme est complètement, diamétralement opposé à toutes les expériences qu'on peut vivre dans ce monde, d'expérimenter un petit peu la vie. Le texte ici nous dit que si on reçoit Christ, on reçoit la vie avec lui. Si on ne reçoit pas Christ, on n'a pas la vie non plus avec lui. Jean 3, 36. Il y a plusieurs personnes qui ne viennent pas dans une église. On a beau leur dire, viens écouter la Bible, viens, intéresse-toi à ce qu'il y a dans le message de la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre leur vie. Ils ont peur de perdre des expériences dans la vie. Ils croient qu'ils vont perdre l'épanouissement. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis il dit, je suis venu dans Jean, dans le même livre, il va dire dans Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Et la raison pourquoi les hommes ne viennent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre leur vie. Mais Jésus dit, si tu viens à lui, que tu vas avoir la vie abondante. Parce que tu n'auras pas une expérience de vie. Tu vas avoir celui qui donne la vie abondante. Et donc, les gens pensent qu'ils vont perdre ceci, perdre cela, ils ne pourront plus faire des expériences dans leur vie. Dans notre vie, on veut avoir des expériences, on veut créer la vie, on veut vivre la vie. Puis on finit par croire que si on vient à Jésus, notre vie va être volée. On va perdre quelque chose, mais en fait, on s'approche de celui qui est la vie. Et donc, Dieu n'est pas venu. Ah oui, ça c'est vraiment intéressant. Jésus n'est pas venu dans le monde pour rendre des méchants bons. Il est venu pour prendre des morts et leur donner la vie. Je veux juste le répéter parce que souvent les gens ils pensent que les chrétiens, c'est le but, c'est de devenir bons. C'est vraiment pas ça. Le but, c'est que Dieu n'est pas venu prendre des méchants pour les rendre bons, il est venu pour prendre des morts et les rendre vivants. Puis s'il te rend vivant, bien, tu vas aussi devenir vivant. Tu vas devenir être la personne que tu es supposé de devenir aussi, avec toutes les qualités qui viennent avec aussi. Mais Jésus est loin d'être venu juste prendre des méchants puis les faire des bons. Il est venu prendre des morts puis il est venu les rendre vivants. Ça, c'est vraiment intéressant. Le dernier système, c'est un système qui est enraciné dans les actions, hein, comme on a vu ici, dans le faire. Puis il y a un jour, il y a quelqu'un qui vient voir Jésus puis il dit, Jésus, bon maître, autrement dit, tu es bon, je suis juste après toi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, l'œuvre qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Donc, l'œuvre, l'homme veut faire quelque chose. L'homme veut faire quelque chose pour une divinité. Il veut apaiser le ciel. Je veux dire, dans toutes les religions, on veut apaiser comme un Dieu en colère, comme on pourrait dire. Genre, aller y offrir de l'encens à une victime. On veut y offrir quelque chose pour qu'on dise, on sait qu'on a péché, on sait qu'on a besoin d'être pardonné. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Est-ce qu'il faut que j'y aille monter les marches d'une église à genoux? Faut-tu que je donne aux pauvres pour compenser pour le mal que j'ai fait? Est-ce qu'il faut que je fasse du bien pour acheter le mal que j'ai fait? Puis Jésus dit, l'œuvre. Eux autres, ils disent, quelles sont les œuvres qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? Et lui, il dit, l'œuvre qu'il faut que vous fassiez, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Et donc, Jésus répond par ce qu'il est, et non par ce qu'il faut faire. Et donc, le chemin de la vie éternelle n'est pas de faire des œuvres pour Dieu, mais de comprendre que Jésus est le chemin envoyé par Dieu pour nous sauver. Il est celui qui vient faire le pont entre les hommes perdus et Dieu. Et plus tard, à un moment donné, dans ça devient difficile parce que là, Jésus se fait attaquer, puis ça devient difficile. Puis il dit à ses disciples, « Vous ne voulez pas vous en aller, vous autres aussi? » Là, ça, peut-être vous trouvez ça dur de rester avec moi. « Vous ne voulez pas vous en aller aussi? » Et un de ses disciples va lui dire, « À qui tu veux qu'on aille? Façon de vivre. C'est toi qui as les paroles de la vérité. Tu as les pensées et les paroles de la vérité. Tu es le vers qui qu'on va aller. » Et donc, tu as les paroles de la vie. Jésus était le chemin. Et d'ailleurs, dans Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin. » Et crime, c'est différent de notre éléphant de tantôt, ça. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, ça nous place dans une position, soit que Jésus est un imposteur et un menteur qui s'est appelé, plus tard, il va s'appeler Dieu lui-même. Dans le même passage, un verset avant, Philippe, il dit, Jésus, montre-nous le Père. Jésus dit, ça fait si longtemps que je suis avec toi, puis tu n'as même pas vu le Père, puis tu me dis, montre-nous le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Jésus se proclamait Dieu, puis là, il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. C'est fort, là. Il n'est pas un chemin, un type d'enseignement. Ce n'est pas sa vérité, une de ses vérités. Il n'a pas dit, je suis venu enseigner une des vérités. Je suis venu vous donner des expériences de vie. Non, il est le chemin, la vérité et la vie, puis nul ne vient à Dieu que par lui. Alors, Jésus est venu plus que donner un système, il est venu se donner lui-même. Et savez-vous que dans aucune des religions du monde, il y a quelqu'un qui s'est proclamé être Dieu venu en tant qu'homme? Savez-vous que si vous parlez à un bouddhiste et vous lui demandez si ça aurait été quelqu'un d'autre, est-ce que ça aurait fonctionné pareil, la religion bouddhiste, et on vous aurait répondu oui, cet état d'illumination-là aurait pu arriver par n'importe qui que par Bouddha. Okay. Si vous allez voir un musulman et vous lui demandez est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre que Mahomet, il va trouver ça bien, bien difficile, mais il va quand même te dire que oui, ça aurait pu être un autre prophète, puis ça aurait été Allah et ce prophète-là qui aurait été la vérité. Tandis que si vous enlevez Jésus-Christ du système, dans le christianisme, tout s'effondre. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu, le sauveur des hommes et le seul chemin pour aller à Dieu, c'est soit lui, soit rien du tout. Donc, Jésus, lui, par rapport à toutes les autres religions, il est venu comme Dieu, et les autres religions, non, ils sont venus comme des prophètes. Et donc, quand on pense que le christianisme, c'est juste de croire certaines choses dans notre Église ou de se faire juste une série d'expériences dans notre vie sur la terre, ou que c'est une liste de choses à faire et à ne pas faire, on a réduit le christianisme à ce qu'il n'est pas en réalité. La foi chrétienne, c'est que Dieu s'est incarné comme Dieu et que quand Dieu a parlé, Dieu aussi fait arriver des choses. Comme quand il a parlé dans Genèse 1, il a créé les cieux et la terre en disant qu'il y ait de la lumière et là, il y a eu de la lumière. Et donc, quand Dieu parle en plus, le Nouveau Testament nous dit qu'il ne fait pas juste créer. Quand il parle, il se présente. Et la parole a été faite chair. Et il nous a été présenté dans la personne de Jésus-Christ. Dans tous les systèmes religieux du monde, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont un prophète ou quelqu'un qui parle de la part de Dieu, mais il n'y a aucun des systèmes qui va dire que c'est Dieu qui est venu dans le monde. Le christianisme n'a pas d'égal dans ce sens-là. Et puis, je veux juste terminer avec ceci. Il n'y a aussi aucun autre homme qui était Dieu puis qui a prouvé qu'il était Dieu, comme Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et qui a été puni à la place des hommes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, ce jour-là, il s'est passé que vous et moi, nous avons un casier judiciaire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'est quand la personne de Jésus-Christ a pris notre casier judiciaire et l'a pris sur lui et il a été puni. C'est pour ça que ce n'est pas faire ou ne pas faire qui nous permet d'aller au ciel, puisque tout ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire et toutes les choses bonnes qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas faites sont des péchés auxquels il y a un compte à payer qui a été payé par Jésus-Christ. Et donc, ce qu'on comprend de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est que Jésus-Christ a payé la dette de nos péchés afin qu'on puisse recevoir par lui le chemin qui nous mène à Dieu. Et donc, ce n'est pas un set de croyances à croire. Ce n'est pas juste de commencer à faire mieux dans ma vie pour me racheter de mes affaires que j'ai faites dans le passé. Ce n'est pas juste une liste de devoirs. C'est accepter qui Jésus est, qui il est, Ben, il est Dieu fait homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé la dette de nos péchés pour qu'on puisse aller au ciel avec Dieu. Il est ressuscité des morts le troisième jour pour nous donner la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on expérimente une fois. C'est Jésus qu'on invite, puis lui qui est la vie, il vient vivre en nous. Alors, le christianisme ne dit pas qu'il y a plusieurs chemins, en conclusion. Le christianisme paraît intolérant parce qu'assis à la table, que toutes les croyances sont bonnes, nous on dit, excusez, ça se pourrait-tu que toutes les vérités ne s'équivalent pas? Puis est-ce que ça se pourrait que Jésus, quand il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Dieu. » Paf! On devient des intolérants dans une culture qui veut que tout soit égal. Mais si la vérité est connaissable, puis si Dieu s'est vraiment révélé, puis que Jésus-Christ, historiquement, il n'y a aucun historien sérieux qui le doute de sa personne, qui est mort sous Ponce Pilate, puis qui est ressuscité comme il l'a vraiment dit, qu'il ferait, puis que ça n'a jamais été mis en cause, et aucun historien peut dire qu'il n'est pas ressuscité, parce qu'il est ressuscité à la même place où on l'a crucifié. Si tu pars un cancan, tu t'en vas à 300 km de là, puis tu repars ton affaire. Où c'est que ça a parti, ça, cette calomnie-là, que Jésus était ressuscité? À Jérusalem, exactement à la même place où il a été crucifié. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Pourquoi est-ce que les disciples sont tous morts, martyrisés, parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à leur croyance qu'ils l'avaient vu ressuscité, puis c'était vrai ces affaires-là? Personne ne meurt pour un mensonge. Même un kamikaze qui se fait foncer qui se fait sauter une bombe sur lui, là, c'est parce qu'il est convaincu, lui-là, là, qu'il va avoir une récompense s'il le fait. Personne ne se sacrifie pour un mensonge. Les gens se sacrifient pour ce qu'ils croient être vrai. Alors les disciples sont tous morts, martyrisés, sauf un qui a vécu un peu plus vieux, Jean, sur l'île de Patmos. Ils sont tous morts pour dire, « Hey, sais-tu quoi? C'est vrai. Puis moi, je l'ai vu ressusciter en plus. » Dit qu'il n'est pas ressuscité. Ils sont tous morts parce qu'ils ont dit qu'ils l'avaient vu ressusciter. Puis ils n'ont pas voulu abdiquer de ce mensonge-là. Alors, si la vérité existe, si Dieu qui a créé le monde, il veut qu'on sache la vérité, puis s'il s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ, ça nous place devant un choix et une responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec cette vérité-là? Qui n'est pas une phrase, mais une personne, Jésus-Christ. Je vais vous inviter, on va fermer les yeux ensemble. Je vais inviter ceux qui sont sur enregistrement et ceux qui sont ici aussi, qui n'auraient jamais fait cette prière-là pour faire la paix avec Dieu. C'est une prière qu'on fait à chaque rassemblement. Hein? Le dimanche, souvent, on va la faire ensemble parce qu'on ne sait jamais quand quelqu'un a finalement compris qu'est-ce que Jésus a fait, qui il est. Ce n'est pas parce qu'on est dans une église qu'on est des chrétiens, pas plus que quand on va chez McDonald's, on est un hamburger. Et aujourd'hui, je peux recevoir le don de la vie éternelle, qui est Jésus-Christ lui-même, si, un, je reconnais qui il est, puis deux, j'accepte ce qu'il a fait pour moi. Et comment on le fait? On le fait par la prière. On reconnaît qui il est et ce qu'il a fait pour nous, puis on l'accepte. Et il y a un transfert de compte qui se fait à ce moment où sa condamnation, ta condamnation devient la sienne, puis sa vie éternelle devient la tienne. Et tu n'iras jamais en condamnation après. Tu as reçu la vie éternelle. On va la faire en geste de courtoisie. Ce n'est pas une prière qu'on fait régulièrement, comme parce qu'on n'est pas sûr d'être sauvé. On la fait par geste de courtoisie, si on l'a déjà fait dans le passé, pour qu'une personne qui serait seule à la faire se sente accompagnée aussi. Mais normalement, Dieu n'est pas sourd, puis il écoute notre foi. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que tu es Dieu, fait homme, que tu es mort sur la croix pour être puni pour mes péchés. Je le crois et je l'accepte. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Seigneur, si quelqu'un a fait cette prière, pour la première fois qu'il a cru qui tu es et ce que tu as fait. Tu es son chemin pour aller à Dieu. Tu es la vérité. Révèle-lui cette vérité-là dans son cœur. Puis tu es sa vie. Seigneur, tu es venu pour lui donner la vie abondante. Je te prie que la personne qui a prié cette prière avec foi puisse voir comme la femme qui était au puits, que Jésus a dit, il y a un fleuve qui va couler en toi jusque dans la vie éternelle. Et je te prie que cette personne puisse recevoir la vie abondante que tu as promis à ceux qui croyaient en toi. Amen. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute respectueuse. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir avec un chant.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et beaucoup plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.